Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font notre beau territoire. Aujourd'hui, c'est Karina qui vous accueille et tout de suite, le sommaire. Il est midi 16 et au sommaire de cette locale du mercredi 12 janvier, on vous propose de parler d'abord avec une directrice et professeure des écoles sur le territoire de la grève dans les écoles. Donc une grève qui a l'air d'avoir pris une énorme proportion en France en général. On va en parler dans un instant. Et puis juste ensuite, on parlera avec Thomas Reynaud de tout autre chose. Lui, il est co-gérant de la boulangerie Addiction sur Bourg-lès-Valence et il va nous expliquer comment il est concerné par l'augmentation énorme du prix du beurre. Et comme d'habitude, des infos et des brèves locales. Et j'ai donc au téléphone avec moi une directrice et professeure des écoles. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va.
ça pourrait aller mieux, j'imagine, aujourd'hui.
Oui, mais bon, on s'adapte comme d'habitude. Donc, voilà, on essaie de garder la forme.
Donc, cette grève, elle est très suivie en France aujourd'hui. C'est vraiment une journée spéciale. J'ai entendu que la moitié des écoles étaient fermées.
Oui, alors, a priori, de ce qui est indiqué par les syndicats, il y a même plus de la moitié des écoles. Il y aurait 75% de grévistes, donc à l'échelle de Valence, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je pense qu'il y a plus de la moitié des écoles qui sont fermées, oui, demain. Voilà, pour dénoncer beaucoup de choses et notamment liées à la crise actuelle du Covid.
Oui, si on voulait t'avoir au téléphone, c'était justement pour comprendre parce que à la radio, on n'est pas dans ces écoles et on ne sait pas vraiment. On entend régulièrement les nouvelles mesures, mais on a du mal à imaginer les conséquences de ces mesures dans la réalité sur le terrain. Et donc, pourquoi est-ce que vous faites grève concrètement ?
Bon, alors déjà, moi, ce que j'aimerais passer comme message, c'est qu'on fait grève, pour nous, enseignants et personnel des écoles, mais également pour les parents et les enfants qui pâtissent aussi énormément de la situation actuellement. Ce qui est très compliqué, c'est les changements incessants de protocoles qui sont lourds à mettre en place, qui sont annoncés par les médias et non par nos supérieurs directement.
Vous ne recevez pas les consignes ?
Alors, on ne reçoit aucune consigne en avance. Tout est donné par les médias. Voilà. On manque clairement de remplaçants dans les écoles. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a quand même aussi beaucoup d'enseignants qui sont touchés par le virus et qui, malheureusement, ne sont pas remplacés lorsqu'ils sont absents. Ce qui laisse parfois des élèves pendant une semaine, voire 15 jours, sans école.
Wow.
Voilà, donc un manque clairement de remplaçants. Manque de moyens aussi matériels, manque de masques, manque d'autotests. Nous, dans les écoles, on n'est clairement pas fournis comme on le devrait. Donc, c'est tout ça, en fait, qui épuise. Voilà, des enfants qui subissent aussi énormément la situation parce qu'actuellement, on leur demande d'être testés trois fois dans l'espace d'une semaine.
C'est énorme,
c'est un geste qui est très désagréable à subir pour eux. Ils arrivent à l'école le matin, ils arrivent avec l'idée en tête qu'à tout moment ils peuvent repartir parce que s'ils ont un copain qui est positif dans la classe, eh bien il va falloir qu'ils aillent se faire tester. Mmh. Voilà, donc pour nous enseignantes, c'est accueillir les élèves, les faire repartir, les récupérer au compte-gouttes. Donc autant vous dire qu'au niveau des apprentissages, on n'est pas là où on devrait être. Voilà.
Il doit y avoir du retard, oui, beaucoup de retard qui
Exactement,
s'accumule.
exactement. Et puis, ouais, et puis peu de sens au niveau du protocole, ou en tout cas, voilà, des ordres et des contre-ordres qui sont très compliqués. En l'espace de 15 jours, on a déjà changé 3 fois de protocole, donc même pas 15 jours, je dis 15 jours, mais même pas 15 jours. Sachant qu'on nous en a pondu un encore mardi soir. Voilà.
Et on en est où justement du protocole aujourd'hui dans les écoles?
Bah, alors là, actuellement, si un cas se révèle positif dans une classe, les enfants doivent être testés, plus avec un PCR ou un antigénique, mais par un autotest. Et les parents doivent faire une déclaration sur l'honneur, comme quoi l'autotest était négatif. Et ils doivent refaire un test à J plus 2 et à J plus 4. Donc, en l'espace de 7 jours, 3 tests.
Est-ce que
Voilà.
ces tests sont remboursés?
Alors, normalement, les pharmacies doivent les fournir gratuitement aux parents avec un papier que nous, on leur communique. Par contre, là, la difficulté que rencontrent certaines familles, c'est que les autotests ne sont pas toujours disponibles en pharmacie.
Oui, il doit y avoir beaucoup de demandes.
Exactement.
Et en termes d'activités scolaires, qu'est-ce que vous pouvez encore faire en ce moment?
Et ben voilà, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont compliquées. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore faire en ce moment? Ben, en classe, travailler les fondamentaux, le français, la lecture, les grands classiques. Là où on est pénalisé, c'est sur tout ce qui est activité sportive et culturelle. Donc, la piscine, la natation, c'est de nouveau plus possible. Le sport en gymnase, actuellement, est aussi fortement déconseillé. Donc, avec la météo actuelle, c'est vrai que c'était quand même des espaces plus adaptés pour les activités sportives. Le cinéma et le musée, c'est aussi proscrit pour le moment. Voilà, donc plus grand-chose en fait au niveau des projets et de ce qui touche à l'ouverture culturelle, on est très limité à nouveau.
Et pour se dépenser aussi, j'imagine que sans le sport, ça
Exactement.
doit être compliqué pour les enfants.
Exactement. Oui. Oui, puis globalement, je pense que les enfants, de plus en plus, hein, sont déçus aussi, hein, quand on leur annonce que bah, finalement, on n'ira pas à la patinoire, on n'ira pas à la piscine. Nous, on a des élèves qui ne sont pas allés à la piscine en temps scolaire depuis 2 ans, en fait, voire ouais, 2 ans, oui, 2 ans, maintenant 2 ans.
Et comment est-ce qu'ils s'adaptent à tout ça, les enfants, à tous ces changements constants?
Bah, plutôt bien, moi je trouve qu'ils sont plutôt bien. Les enfants s'adaptent hein, de toute façon, mais après c'est difficile d'évaluer maintenant comment ils sont touchés individuellement, psychologiquement. Voilà, on sent que c'est quand même quelque chose qui est dans leur bouche depuis 2 ans maintenant, le Covid. Bon, là, ils commencent tous à parler du pass sanitaire parce que du coup, bah, la vaccination pour les enfants et sera potentiel et enfin et d'actualité et voilà ils se questionnent beaucoup là-dessus sur bah oui mais moi je veux pas être privée d'aller à la médiathèque, je veux pas être privée donc bah, je veux me faire vacciner. Ils ont des discussions qu'ils n'avaient pas auparavant et je pense aussi des inquiétudes.
Ouais, j'imagine que ça doit être omniprésent dans leur tête.
Ouais, tout à fait.
Et les parents de leur côté, comment est-ce qu'ils réagissent à tout ça?
Bah, les parents, ils sont fatigués aussi parce qu'ils en ont ras-le-bol qu'on les appelle à n'importe quel moment de la journée pour leur demander de venir récupérer leurs enfants, et ce qui se comprend complètement puisque les parents travaillent en fait. Donc voilà, pour eux, c'est compliqué aussi de gérer ça avec leurs employeurs. Et puis pour les parents aussi, je pense qu'ils le vivent aussi un peu comme de la maltraitance que de faire tester leurs enfants aussi régulièrement. Voilà, il y a un agacement, ils vont faire la queue à la pharmacie, au laboratoire, c'est du temps, c'est bon, voilà, c'est pas reposant.
Et je me demandais, la cour de récréation, en ce moment, elle ressemble à quoi?
Alors, une cour de récréation actuellement, elle est... et en fait, les enfants sont par classe, donc ils ne jouent que entre eux. Ils n'ont pas accès à tout l'espace de cours de récréation comme habituellement. Voilà, ils ont du matériel à disposition, mais de manière irrégulière, parce que du coup, on fait tourner des caisses de jeu. Voilà, donc il n'y a pas toujours... on laisse toujours un peu un temps aussi à l'utilisation du matériel de jeu. Bon, c'est sûr que c'est moins sympathique pour eux parce qu'ils ne se mélangent pas, ils ne peuvent pas se voir entre fratries, entre... voilà. Mais je dirais que, bon, ils s'y sont adaptés.
Oui.
Et c'est pas ce qui est le plus... c'est pas ce qui est le plus désagréable pour eux actuellement.
Et ils sont tous masqués, tous à distance ?
Ah, par contre, alors, ils sont tous masqués... Ils sont tous masqués à nouveau, oui, puisque ce n'était plus le cas il n'y a encore pas si longtemps que ça. À distance, bah, comme c'est possible d'être à distance, on va dire, parce que vous, vous doutez bien qu'on ne peut pas courir après chaque enfant pour leur rappeler qu'ils ne doivent pas se toucher, qu'ils doivent respecter les gestes barrières lorsqu'ils sont en récréation. En fait, ça reste des enfants. Donc,
Oui. Ça reste des enfants.
Voilà.
C'est bien de le rappeler.
On leur en demande beaucoup.
Ouais, effectivement. Et toi, en tant que directrice, est-ce que quelqu'un t'aide ? Enfin, est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour t'aider ?
Alors, que dire ? Mon inspecteur, mon IEN, est toujours présent lorsqu'on a des questions. Voilà, c'est souvent à lui qu'on se réfère. Et puis entre collègues aussi, entre collègues directeurs, quand on a besoin, on sait qu'on peut s'appeler les uns les autres. Ça fonctionne aussi très bien comme ça. Après, c'est vrai que parfois, on est un peu perdu avec toutes les informations. Difficile d'être 100% à jour. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Moi, clairement, depuis 2 ans, j'ai parfois l'impression d'être plus qu'une gestionnaire Covid et non plus une directrice d'école qui devrait être axée sur l'organisation pédagogique d'une école. Voilà. Donc là, je suis plus sur de l'organisation sanitaire. Voilà. Et beaucoup de parents qui nous sollicitent aussi parce qu'ils ont aussi des questions et qu'eux aussi ont besoin d'avoir les bonnes informations. Donc voilà, après, on n'a pas vraiment de... Il y a une cellule Covid qui, jusque-là, n'était pas vraiment joignable et qui vient d'instaurer un numéro, là, auquel on peut se référer si besoin, depuis cette semaine, juste. Bon, ça a pris un peu de temps, ça aussi.
J'imagine qu'en termes de temps de travail, tout ça, ça doit se rajouter au travail déjà d'une professeure des écoles directrice.
Oui.
Est-ce que tu en es à prendre du temps sur ton temps à toi pour pouvoir gérer tout ça ?
Ah ben oui, en fonction des situations, bien évidemment, ouais. En fonction des situations, d'autant plus que maintenant, on reçoit aussi des informations le soir tard de familles qui nous disent que leurs enfants sont positifs, donc il faut être réactif, il faut pouvoir réagir un peu à n'importe quel moment et s'adapter à n'importe quel moment. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était moins prégnant avant la crise. Je le suis, mais mes collègues enseignantes toutes également, hein, on est un peu sur le qui-vive 24/24, on va dire.
On l'entend et on entend que ça doit être vraiment le jour et la nuit entre avant et après le Covid pour vous et pour le métier que vous faites qui est compliqué. Pour cette grève, donc, en fait, vous êtes contre ces changements constants. D'un côté, l'État, lui, le gouvernement justifie ça par les mesures sanitaires qui sont nécessaires à notre sécurité. Quelle est votre place par rapport à ça ?
Nous, il y a beaucoup de colère aussi d'un manque de considération et de mépris envers le corps enseignant de manière générale depuis cette crise. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait que les informations nous soient communiquées par les médias, donc parfois par les familles, bien avant qu'on ait les informations, parce que si ça a été dans la journée, on est en classe, donc on ne sait pas ce qu'il a été dit aux médias, mais c'est ça, c'est un manque de moyens financiers aussi, hein, pour tout ce qui est du remplacement. C'est aussi tout ça qu'on dénonce. Voilà, une certaine maltraitance du corps enseignant, en quelque sorte, qui, je pense, est très docile depuis le début de cette crise et c'est peu manifesté. Voilà, hein, il faut. Enfin, moi, j'ai tellement le nez dedans que c'est difficile pour moi de lister tout ce qu'on a appliqué et toutes les choses auxquelles on a dû s'adapter et au quotidien et de manière spontanée, imprévisible, voilà. On nous en demande beaucoup et quand j'entends notre ministre encore hier nous dire que on ne fait pas une grève contre le Covid. Voilà, j'ai envie de lui dire qu'on ne fait pas une grève contre le Covid, mais qu'on fait bien grève contre notre ministère.
Est-ce qu'autour de toi, il y a des directrices ou directeurs ou professeurs qui ont abandonné ou qui n'arrivent plus à gérer la situation ?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de directeurs, directrices d'école qui sont en souffrance. Je pense que moi également, si je n'avais pas une équipe sur laquelle je peux vraiment m'appuyer, sur laquelle je peux compter, je serais en souffrance. C'est par moments difficiles. On est en première ligne aussi quand on a des parents en colère, des collègues en colère. Voilà, il faut aussi gérer tout ça, les émotions des uns et des autres. Qu'il faut savoir accueillir et parfois les nôtres aussi qu'il faut pouvoir
écouter.
Il faut pouvoir gérer. Donc effectivement, il y a de la souffrance, c'est certain.
Et quelles sont vos revendications du coup ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Déjà, il faudrait débloquer plus de remplaçants à l'échelle de l'école élémentaire, évidemment, mettre les moyens sur le remplacement. Il faudrait aussi qu'on puisse peut-être donner notre avis à un moment donné sur la mise en place de ce protocole dans les écoles, en fait, parce qu'à aucun moment donné, on a été sollicité sur comment ça se vit sur le terrain. Et je pense que malheureusement, là-haut, ils sont un peu trop loin de ce qui se passe et de ce qui se passe en réalité dans les écoles. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est demandé par les enseignants, qu'on puisse donner notre avis et faire partager ça auprès du gouvernement. Et puis également des moyens matériels, qui sont ceux de pouvoir obtenir des autotests quand on en a besoin, être fourni en masque et en produits nettoyants pour pouvoir nettoyer des tables, etc. Enfin, c'est tout un équipement spécial Covid, on va dire. Donc voilà, ce sont principalement ces choses-là qui seront en tout cas à l'honneur demain de la manifestation.
Et comment nos auditeurs, auditrices peuvent vous soutenir ?
Écoutez, si demain vous êtes disponible et disposé à venir manifester, donc départ de la manifestation demain à 14h devant la DSDEN. Voilà, on sera ravis du soutien des uns et des autres. On espère vraiment que les parents aussi joueront le jeu pour ceux qui le peuvent. À Valence, tout à fait. Je crois savoir qu'il y a aussi d'autres manifestations, notamment à Cré, à Montélimar, mais je ne pourrais pas vous donner le lieu de départ. En tout cas, Valence, 14h devant la DSDEN. Ouais.
Allez, on va noter ce rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Eh ben merci à Radio BLV.
Et bon courage pour la suite.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Quelques informations locales maintenant. Sachez d'abord que dans le cadre d'opérations de maintenance périodique, en accord avec la préfecture de la Drôme, un test des sirènes du signal national d'alerte du site nucléaire du Tricastin a été réalisé aujourd'hui à 12h10. Donc si il y a un quart d'heure environ, vous avez entendu ces sirènes, pas d'inquiétude, tout va bien. Ce test était audible donc par les populations environnantes, mais ça ne restait qu'un test. Si jamais vous cherchez du travail maintenant, sachez qu'un recrutement est organisé par Pôle emploi dans le secteur de la maroquinerie. C'est demain, 13 janvier à 10h, l'information collective avec possibilité d'inscription MRS. MRS, qu'est-ce que c'est ? C'est la méthode de recrutement par simulation. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau de diplôme et votre expérience, vous allez être recruté sur vos capacités à occuper le poste proposé. Donc le rendez-vous, c'est à l'atelier des Quatre Collines à Haute-Rive. C'est à la salle des fêtes, pardon, juste à côté de la mairie. Et pour vous parler de l'offre, donc c'est des offres de maroquiniers, maroquinières, débutants et débutantes. La formation est assurée par l'entreprise. Vous pouvez vous inscrire aussi par mail à entreprise.rha0192@pole-emploi.net. Sachez également, cette fois-ci, qu'on a besoin de votre solidarité. Dans la France entière, les réserves de sang sont faibles en ce moment et l'établissement français du sang cherche urgemment à les remplir. Sur la Drôme et l'Ardèche, il y a de nombreux endroits où vous pouvez aller donner votre sang. Vous les retrouvez en tapant votre commune sur le site dondesang.efs pour établissement français du sang.santé.fr. Par exemple, à Valence, vous pouvez vous rendre directement à côté de l'hôpital au 72 avenue du docteur Santi. À Guilly-Rengrange, sachez qu'il y aura une collecte de sang lundi prochain, donc lundi 17 janvier de 14h30 à 17h30 au 30 rue Claude Chappe. Sinon à Saint-Péray, ce sera le lundi d'après, lundi 24 janvier de 15h30 à 19h et également le lundi 31 mars de 15h30 à 19h. À Saint-Péray, ce sera avenue Louis-Frédéric Ducrot au CEP du Prieuré. Et à Bourg-les-Valence, pour ceux qui sont proches de notre radio, il va falloir patienter un peu. Le rendez-vous, c'est mardi 22 février de 14h à 19h à la salle des fêtes des mariages à la mairie de Bourg. Et on va parler cette fois-ci de beurre et de l'argent, du beurre surtout. Je vous propose d'écouter Thomas Reynaud qui est co-gérant de la boulangerie Addiction à Bourg-les-Valence. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va bien, merci, et vous ?
Ça va très bien, merci. Alors vous êtes co-gérant de la boulangerie Addiction à Bourg-les-Valence. Peut-être pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez la présenter un peu ?
Oui, bonjour, je suis donc là le co-gérant de la boulangerie Addiction à Bourg-les-Valence et également à Pont-d'Isère depuis octobre 2019. Nous avons ouvert à Bourg-les-Valence. Depuis le mois d'octobre, nous avons ouvert 2021 à Pont-d'Isère. Nous sommes situés à Bourg-les-Valence en face de la SPIT, juste avant Bernard Philibert, entre Bernard Philibert et la Foire Fouille. Nous sommes une boulangerie artisanale 100% fait maison. Nous travaillons avec des produits locaux comme le chocolat Valrhona, du blé 100% Rhône-Alpes avec une minoterie d'Isère et une minoterie de Châteauneuf-de-Galore. Et nous travaillons exclusivement avec des produits frais. Nous travaillons avec un primeur de Valence également.
Génial, c'est précieux que vous fassiez tout ce beau travail. Minoterie, ça veut dire quoi ?
Un minoterie, c'est une personne qui transforme le blé en farine.
Ah, d'accord. Donc que du local ?
Que du local.
C'est génial. Et justement, donc, la question qui nous concerne aujourd'hui, c'est celle du beurre. Par rapport au beurre, où est-ce que vous vous fournissez ?
Alors nous, on a plusieurs fournisseurs locaux sur Mours, Saint-Eusèbe ou Lyon. Et oui, le beurre en ce moment, c'est très très compliqué déjà d'en avoir. Et puis, pour l'avoir, c'est des augmentations chaque semaine. On parle de plusieurs euros. Du beurre qu'on payait avant 4 euros le kilo, actuellement, on le paye 8 euros le kilo. Donc oui, c'est très compliqué. Soit on continue comme ça, c'est ce qu'on fait, on réduit aussi déplorablement notre marge pour ne pas dégrader notre qualité. Ou alors, l'autre solution, c'est d'utiliser d'autres produits de moins bonne qualité, par exemple, tels que la margarine, que nous n'utilisons pas. Nous sommes 100% pur beurre sur tous nos produits, ainsi que notre viennoiserie. Donc, pour l'instant, on fait l'effort de réduire considérablement notre marge, mais on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir aller, parce que les approvisionnements sont très, très compliqués. On n'est même pas sûr, quand on passe commande, de recevoir la quantité voulue, quoi.
C'est énorme que ce soit multiplié par deux et que ça continue encore d'augmenter de semaine en semaine.
Ah oui, ça augmente de semaine en semaine et on se dirige peut-être même vers une pénurie de beurre comme sur l'emballage et beaucoup d'autres matières premières.
Et vous savez comment ça se fait qu'on en soit arrivé là ?
Bah, la crise sanitaire due au Covid, l'arrêt des quotas laitiers, donc un agriculteur ou qui n'achète plus son lait ou qui vend son lait à perte, eh ben, il arrête de faire du lait et il dirige vers un autre produit qui est plus rentable. Les agriculteurs ont eux aussi besoin de gagner leur argent et s'ils vendent un produit à perte, eh ben, ils l'arrêtent. Donc les gens qui faisaient du lait, bah, s'ils en font moins, on fait plus de lait, donc moins de crème, moins de beurre. Donc après, on n'a plus le choix. On subit les augmentations et puis on n'a pas le choix. Soit on se dirige vers des produits de moins bonne qualité, ce qui n'est pas notre créneau, soit on continue pour l'instant à acheter au prix fort en réduisant notre marge et on lutte pour pas augmenter les prix. Mais on ne sait pas si on va pouvoir continuer à tenir comme ça très très longtemps. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'amélioration avant le mois de mars.
Et justement, si c'est lié aux producteurs qui produisent moins de lait ou des gens qui s'installent moins dans cette filière-là, ça risque pas de s'améliorer alors ?
Ça risque pas de s'améliorer, non. Après, on espère chaque semaine avoir des bonnes nouvelles, que le cours du beurre a baissé, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, tant que les paysans, on ne rachètera pas leurs produits à la juste valeur et que c'est les industriels et les grands groupes qui continueront à gagner de l'argent, eh ben, on n'y arrivera pas. Et puis, c'est augmenter nos prix, c'est bien beau, mais après, c'est nos clients, il faut qu'ils puissent encore acheter nos produits. Et si on augmente trop, ben, on aura plus de clients, on n'aura plus de clients et on ne pourra plus continuer à faire vivre nos commerces de proximité. Donc après, c'est un combat du quotidien afin d'avoir des...
D'avoir quoi, pardon ?
D'avoir des clients.
Et
si on augmente trop nos prix, on n'aura plus de clients. Et si on n'a plus de clients, ben, on n'aura plus de commerce. Quoi. Donc après, nous, on a fait le choix de se baser sur la qualité et de garder du beurre. Mais on ne sait pas si on pourra durer comme ça si les prix continuent à s'envoler. Quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont concernés par des augmentations de prix ou vous en trouvez moins ? Tous ?
Tous. La farine n'a jamais été aussi haute depuis plus de 10 ans, l'emballage avec la pénurie de bois et de carton augmente de 300%. Donc un sac en papier, par exemple, dans quoi nous mettions les formules le midi, qu'on payait 7 centimes, on le paye 21 centimes. Donc c'est un impact direct, nous, sur notre marge, comme maintenant les couverts bois, les gobelets en carton recyclé sont beaucoup plus chers que le plastique. Donc c'est tous des prix qui ont largement augmenté. Nous avons augmenté, nous, nos tarifs fin septembre, début octobre. Et pour l'instant, on ne les augmente pas, mais oui, c'est un impact direct sur nos commerces.
Pour la farine, c'est la même raison que pour le lait ?
La farine, c'est aussi dû aux conditions météo qu'il y a eu au moment de la récolte. Il y a eu beaucoup de pluie, du coup, les blés ont germé, et du coup, on n'a pas pu faire de la farine, et c'est du blé qui est parti pour le bétail. Donc, il y a moins eu de blé, et donc, s'il y a moins de production, bah, les prix s'envolent.
Et est-ce que vous avez calculé vos pertes par rapport à tout ça, au fait que vous augmentiez pas les prix et que tout coûte de plus en plus cher ?
On réduit considérablement notre marge, donc oui, on perd des nombreux points de marge chaque jour, mais si on veut continuer à vivre, il va falloir soit réaugmenter nos prix, soit que les prix diminuent. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Et on espère que ça va se calmer. Et sinon, après, on verra à la fin du trimestre 2022 ce que ça en donne et s'il faut augmenter ou pas nos prix. Mais pour l'instant, ce n'est pas le but. On se bat pour maintenir nos prix afin que nos clients ne soient pas trop pénalisés eux aussi parce que les salaires n'augmentent pas autant que l'inflation. Et du coup, si on augmente nos prix, on réduit le budget de nos clients.
C'est un bon choix courageux de ne pas augmenter vos prix, merci de ne pas le faire.
Après, on compte sur le soutien de nos clients et leur fidélité afin de continuer à pouvoir travailler ainsi.
Et justement, vos clients, ils réagissent comment ?
On les a informés. Au début du mois d'octobre, ils ont râlé, entre guillemets, parce que c'est compréhensible. Quand le prix augmente les produits, on les a informés. Régulièrement, on met des affichages au magasin pour les expliquer les raisons des augmentations. Certains le comprennent et nous encouragent à continuer ainsi pour avoir des produits de qualité. D'autres le comprennent un peu moins et des fois décident d'aller ailleurs. Mais nous, on est dans notre politique de faire du 100% fait maison avec des produits frais et de qualité. Donc quand des fois dans l'année, on est obligé d'augmenter certains produits, c'est pas pour nous enrichir à nous, c'est surtout pour essayer de maintenir un minimum de marge pour continuer à exister.
Et est-ce que vous savez s'il va y avoir des aides par rapport à ça?
Aucune idée. Pour l'instant, on a notre service comptable qui regarde tout ça, mais non, pour l'instant, il n'y a aucune aide annoncée pour les artisans.
Et pour avoir une idée, est-ce que vous savez quelle quantité de beurre vous achetez, je ne sais pas, par exemple, par semaine ou par mois?
Ah bah nous oui, et là en ce moment on est en plein dans les galettes, donc du beurre pour faire le feuilletage et la crème frangipane, on en passe énormément, c'est à peu près 300 kilos par semaine.
Waouh!
Sur nos
Effectivement.
boutiques.
Ça fait une grosse différence de prix.
Ah bah oui, un beurre qu'on a acheté entre 4 et 5 €, nous on le paye entre 8 et 9 € du kilo, donc oui, c'est du simple au double.
Et sinon, les fêtes se sont bien passées pour vous au niveau de la boulangerie?
On a eu des fêtes qui ont été plutôt correctes. Après, il faut pas oublier qu'on est dans un contexte sanitaire, ce qui est très difficile. Donc, on a un petit peu moins de fréquentation due au Covid, au télétravail et tout ça. Mais on s'accroche et puis on espère des jours meilleurs rapidement.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter?
Non, c'est tout bon. En espérant que certains clients nous aient entendus et ont compris que les augmentations de prix qui ont eu lieu et qui auront peut-être lieu dans le futur ne sont pas pour nous enrichir, mais plutôt pour essayer de sauver notre marge et préserver nos commerces.
Oui, je pense qu'on l'a bien compris. Merci, merci beaucoup Thomas, ben, déjà
Merci à vous.
d'être sur notre antenne et en plus de continuer de nous proposer des produits locaux et de qualité.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Mythique 46, c'est la fin de cette locale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir écouté ces nouveaux témoignages. Si vous aussi, vous voulez passer dans la locale, si vous avez un message important à transmettre, contactez-nous. On est là, radioblv.com. Vous aurez toutes nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. Et sachez aussi qu'on cherche un service civique à Radio BLV pour nous soutenir dans tout ce super travail qu'on fait à la radio et puis pour aussi lui donner les moyens de réaliser son projet, pourquoi pas une émission de radio. Voilà, donc contactez-nous si jamais ça vous intéresse, c'est à commencer dès que possible. Et pour la suite des programmes, et bien restez sur Radio BLV 93.6. Vous pourrez écouter à partir de 13h l'émission Innove Jeunes, notre série sur les projets de jeunes drômois. Et aujourd'hui, on va parler d'un projet de jeunes valentinois qui ont lancé un groupe de cricket. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, quand je dis valentinois, ils sont sur Valence, mais vous verrez et vous entendrez, ils ne sont pas tout à fait originaires de Valence. À 17h, vous pourrez réécouter la radio dans le Pédalo, le magazine environnement de Radio BLV. Et aujourd'hui, on va parler de nature et plus précisément du Grand-Duc sous toutes ses formes. Donc, si ça vous intéresse, écoutez-nous à 17h. À 18h, rediffusion de cette même locale. À 19h, on retrouve nos voisins préférés, les voisins d'à côté avec leur émission musicale. Et à 20h30, pour finir la journée en beauté, on aura Thierry en direct pour son fameux magazine pop rock, L'Oreille électrique. Et on a compté le nombre de directs de Thierry la dernière fois. Ça dépasse tous les records, Thierry. C'est notre super Thierry à nous. Bonne journée à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve demain avec Sylvie pour une nouvelle locale à 12h15. Au revoir.